Radio Okapi.
À la une de l'actualité ce soir, les initiatives diplomatiques visant à mettre un terme aux violences dans l'est du pays évoquées ce lundi à Kinshasa lors d'une rencontre entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix Jean-Pierre Lacroix et le président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé. La MONUSCO réaffirme sa disponibilité à appuyer les démarches engagées pour le retour de la paix. 11 creuseurs artisanaux ont perdu la vie dans un éboulement survenu dans une carrière minière du Lualaba. Le drame s'est produit ce week-end à Touluizembe, non loin de Kolwezi. Les corps des victimes devraient être inhumés ce lundi, tandis que les blessés reçoivent des soins. Une ONG de défense des droits humains exige l'établissement des responsabilités et que les auteurs répondent de leurs actes. Les États-Unis prolongent jusqu'à fin 2026 la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Une décision qui ouvre des nouvelles perspectives commerciales pour la RDC, bénéficiaire de ces régimes préférentiels. Éclairage dans ce journal avec notre invité, le professeur Ngoï Joël Nchiso, expert en commerce international. Bonsoir à tous. L'évolution des efforts diplomatiques pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre des échanges ce lundi ici à Kinshasa entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, le président du Sénat, la première ministre, les délégués de la CENCO et de l'ECC ainsi que les représentants de l'opposition politique. Jean-Pierre Lacroix dit avoir exprimé la disponibilité de la MONUSCO à accompagner et soutenir toutes les initiatives diplomatiques engagées pour mettre fin aux violences dans la région. On l'écoute au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons discuté des évolutions des efforts diplomatiques pour amener encore une fois de la stabilisation et la paix dans l'est du Congo, les processus de Washington, de Doha, l'implication de l'Union africaine, de la conférence internationale pour le Grand Lac, de tous les protagonistes dont nous sommes partis, tous les protagonistes des efforts de paix. Et nous avons passé un message très clair qui est que la MONUSCO est prête à faire tout le nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les parties à Washington, à Doha, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du cessez-le-feu. La mise en œuvre du cessez-le-feu dépend bien sûr des parties, mais la MONUSCO a un rôle qui est mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ses efforts. Et le message central, c'était que nous sommes prêts à faire le maximum pour assurer ce rôle. Je pense que ce sera nécessairement une progression par phase, parce que la progression du cessez-le-feu, qui n'est pas encore vraiment une réalité, doit se faire. C'est pour ça qu'il est essentiel que nous ayons une implication totale de toutes les parties.
Notez que ces échanges élargis sur la crise sécuritaire en RDC et les perspectives de stabilisation entre Jean-Pierre Lacroix et les forces sociales et politiques se poursuivent demain mardi, toujours ici à Kinshasa. Nous enchaînons avec la province de l'Ituri où l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH appelle l'armée à anticiper d'éventuelles attaques des rebelles ADF. Dans un entretien accordé ce lundi à Radio Okapi, le responsable territorial de cette organisation affirme que l'ennemi serait présent dans plusieurs entités proches de la route nationale numéro 4 RN4. Christophe Mouniandero plaide ainsi pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone afin de permettre aux nombreux habitants qui ont déserté la région de regagner leur village en toute sécurité. Il est joint par Jean-Claude Loki d'Ile.
L'augmentation de l'effectif est très nécessaire, mais aussi la vigilance des deux côtés de la part de la population, ainsi que de nos militaires qui sont sur place. Et cet effectif militaire qui devrait être renforcé dans la zone, ce n'est pas venir juste s'installer, mais voir comment lancer directement les opérations. Surtout, l'ennemi venait de regagner ses anciens bastions. Il faudrait qu'on puisse anticiper tout d'abord les attaques de ces ADF. Et vous verrez que l'ennemi qui avait attaqué au niveau de Kazaro et vers Apakol, c'est le même ennemi qui a attaqué qui est vraiment mauvais, parce que c'est une partie où il y a une grande forêt et il y a aussi des champs de la paisible population et vous verrez que souvent il est en train de traverser dans ces différentes routes de déserts agricoles et nécessairement il faudrait qu'il y ait un changement de tactique qui va nous aider à traquer cet ennemi simultanément des trois territoires du côté de Irumu, Nord Kivu et Mambasa. Nous osons croire que ça pourrait épargner les vies de nos paisibles populations.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province du Lualaba, les 11 creuseurs artisanaux décédés dans un éboulement survenu dans la nuit de vendredi à samedi devraient être inhumés ce samedi, indiquent des sources à Kolwezi. Le drame est survenu dans la carrière de Touluizembe, à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi. Les blessés ont été acheminés dans des structures hospitalières de Kolwezi. L'ONG Justicia ASBL exige que des responsabilités soient établies et que les coupables répondent de leurs actes. Paul Mounanga revient sur ce drame.
Selon les responsables de la coopérative qui encadre les creuseurs Komibakat et le comité des creuseurs sur la mine à ciel ouvert de Touluizembe, cité par l'ONG Justicia ASBL dans son communiqué de presse de ce samedi, les creuseurs ont enfreint la mesure qui interdit de se trouver sur le site au-delà de 16 heures. Ils se sont introduits nuitamment dans la carrière et c'était sous une pluie abondante, ce qui a fragilisé le sol et provoqué la catastrophe, peut-on lire dans le communiqué. Mais selon d'autres sources, l'entreprise minière chinoise Thomas Mining, partenaire financier de la coopérative Komibakat, menait des travaux de séchage de la mine qui n'avaient pas encore pris fin au moment où les creuseurs se sont introduits sur le site. Pour l'ONG Initiative pour la promotion des droits de l'homme, en l'espace de 2 mois, beaucoup de sites miniers artisanaux ont fait plusieurs décès de creuseurs dans la province du Lualaba. C'est notamment Mulondo qui avait fait une trentaine de morts, qui s'encale à 5 décès, et récemment Touluizembe avec la perte de 11 creuseurs. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis, le ministre des Mines affirme que la RDC est un partenaire fiable et stratégique pour l'investissement minier, doté des ressources et des classes mondiales et d'une vision claire des créations de valeurs locales. Louis Watum Kabamba l'a dit ce dimanche au Mining Indaba 2026 qui se tient du 9 au 12 février au Cape Town International Convention Centre en Afrique du Sud. C'est le plus grand rassemblement africain consacré à l'investissement minier, réunissant dirigeants d'entreprises, investisseurs, gouvernements et experts. Le thème de cette année est « Plus fort ensemble, réalisons des progrès grâce au partenariat ». Plus de 10 000 délégués, dont 1450 dirigeants des sociétés minières, 1300 investisseurs mondiaux, 1400 représentants gouvernementaux et 625 intervenants y sont attendus. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Louis Watum Kabamba s'est exprimé ce dimanche lors du symposium ministériel de l'Investing in African Mining sur le thème « Miser sur l'Afrique, mobiliser les capitaux par le partenariat ». Il est également revenu sur la coopération entre la RDC et les partenaires internationaux fondée sur un certain nombre de projets mutuellement bénéfiques. Il a dit, je le cite, « La vision de notre pays, portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est mise en œuvre par la première ministre, est claire. Intégrer la RDC et l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiale des minerais. » Fin de citation. Nous ne voulons plus être des simples fournisseurs des matières premières. Il est désormais essentiel de développer des chaînes de valeur complètes, a-t-il indiqué. J'ai aussi rappelé que les véritables alliés des investisseurs sont les lois, les règlements et l'administration du pays, garant de la stabilité et de la prévisibilité. Après le corridor de Lobito, un nouveau corridor sera développé au nord-est jusqu'au port de Banana, reliant l'océan Indien à l'océan Atlantique grâce au projet de fer de la Grande Orientale, un projet structurant pour l'intégration régionale et la compétitivité logistique, a-t-il conclu.
Par ailleurs, à Mbujimayi, dans la province du Kassai-Oriental, le prix du sac de 50 kg de ciment gris connaît une flambée. Depuis le week-end dernier, il se vend entre 30 et 32 dollars américains contre 25 dollars seulement la semaine précédente. Cette hausse est attribuée à la rareté du produit sur le marché, expliquent plusieurs opérateurs économiques. Des explications avec Esther Dalafina.
Plusieurs dépôts de ciment gris sont fermés ce lundi matin par manque de cette marchandise. Le sac de ciment gris se vend depuis le week-end dernier entre 30 et 32 dollars américains. Pourtant, la semaine dernière, le même sac s'est vendu à 25 dollars. Les opérateurs économiques justifient cette hausse par la rareté de ces produits sur le marché.
J'ai vendu les ciments à 5-26 dollars le mercredi. Les ciments ont vraiment haussé des prix.
Pendant ce temps, les propriétaires des chantiers inachevés déplorent cette hausse et pensent à l'accélération des travaux de construction à Tshitenge de l'usine de production de ciment gris au Kassai-Oriental.
Ce qui concerne l'usine de Katanga que nous attendons, vraiment on avait mis l'espoir, comme on avait dit, avant la fin du mois de janvier, on pouvait avoir donc première production. Mais jusque-là, nous n'avons pas quelque chose.
Signalons que des sources de la Fédération des entreprises du Congo, plusieurs matériels destinés à la construction de l'usine de production du ciment gris sont toujours bloqués dans le Haut-Katanga. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, les peuples autochtones de Bafouassine courent le risque d'extinction. En cause, la diminution de leur nombre pour diverses raisons, notamment leurs mauvaises conditions de vie. La sonnette d'alarme est lancée par le chef de secteur de Bakundumu lors du passage de la délégation conjointe Tropoen Boss RDC Tenur Facility, son partenaire technique et financier le week-end dernier. Le chef de secteur Henri Massimango plaide pour l'amélioration de leur cadre de vie. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Le nombre des peuples autochtones a diminué dans cette contrée à cause de la rébellion, affirme le chef de secteur de Bakundumu, Henri Massimango. Selon lui, bon nombre d'entre eux ont perdu leur vie pendant cette période. Afin de les protéger, il plaide pour leur installation dans la cité, aux côtés des Bantous. Ce besoin de vivre dans un campement dans la cité figure parmi tant d'autres souhaits exprimés par les paysans. Cependant, il ne rentre pas dans le mandat de Tropoen Boss. Son directeur, le professeur Alphonse Maindo, émet le vœu de voir d'autres partenaires intervenir aussi dans cette zone.
Les gens, quand nous demandent des questions d'alphabétisation ou des questions d'amélioration de l'habitat et tout ça, ça ce n'est pas dans notre compétence. Ou les gens demandent des centres de santé ou des maternités, ce n'est pas notre compétence. Et donc, ou des gens qui demandent de l'eau. Donc ça, le fait d'entendre les gens exprimer ces besoins, ça nous permet aussi, grâce à vous également, de pouvoir relayer ces messages auprès d'autres partenaires qui ont des spécificités, qui travaillent sur ces questions-là, de pouvoir venir pour répondre à ces besoins.
Signalons que le lieu pressenti pour la construction de leur campement est situé juste à proximité du bureau du secteur. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que près de 3500 enfants en rupture des liens familiaux vivent dans la rue à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Un groupe de jeunes a fait un plaidoyer aux autorités de la province sur les conditions de vie précaires de ces enfants. C'est à travers un mémorandum que ces jeunes ont déposé vendredi dernier au gouvernorat du Haut-Katanga au cours de la réunion du Conseil provincial des ministres. Pone Munanga nous explique les problèmes auxquels font face ces enfants.
Dans leur mémorandum, ces jeunes demandent au gouvernement provincial du Haut-Katanga de construire beaucoup de centres d'accueil pour les enfants en rupture des liens familiaux, leur offrir un encadrement approprié qui pourrait les motiver à quitter la rue. Il y a lieu aussi d'offrir à ces enfants l'accès aux soins médicaux. Ces jeunes exhortent le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'associer la police à la gestion de la présence de ces enfants vulnérables en usant de l'interpellation, la dissuasion et la persuasion. Il est question aussi d'augmenter les budgets destinés à la protection de ces enfants sans abri, soulignent les jeunes dans leur mémorandum. Ces enfants sont à la base d'actes d'agression, de vols et de menaces sur des paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Pour rappel, des centaines de jeunes présumés délinquants de Lubumbashi ont été transférés dernièrement au service national de Kanyamakasese dans le Haut-Lomami pour l'apprentissage des métiers. Signalons qu'une enquête qui s'est étalée sur une période de 3 ans a été menée par ces jeunes en collaboration avec la division provinciale du genre, avec l'UNICEF et a permis d'identifier près de 3500 jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, des vents violents accompagnés de pluies torrentielles d'une intensité exceptionnelle ont frappé Kabambare Centre ce samedi 7 février, causant d'importants dégâts humains et matériels. Selon le rapport d'urgence des organisations humanitaires et des autorités locales, ces intempéries ont entraîné l'effondrement des bâtiments publics, d'écoles et de nombreuses habitations, provoquant le déplacement massif de ménages et la paralysie partielle de l'administration locale. Le bilan provisoire fait état de 6 personnes blessées, nécessitant une prise en charge médicale urgente, ainsi que de plus de 50 ménages déplacés, désormais sans abri adéquat. Le bureau du territoire de Kabambare, entièrement détruit, déplore la perte des documents administratifs, d'archives et de ses équipements. Florence Kizalunga pour plus de détails.
Les infrastructures scolaires ont également été touchées. L'Institut Kabambare et l'école primaire Salama ont perdu plusieurs salles de classe, entraînant l'interruption immédiate des activités scolaires. Plus de 50 maisons se sont écroulées, plongeant de nombreuses familles dans une situation de grande précarité. Le député national, Emedi Amouri Xavier, qui exprime sa solidarité envers la population sinistrée, appelle à une assistance humanitaire urgente.
Le samedi 7 février, il s'est s'est abattue une grande pluie accompagnée de vents violents. Et cette pluie a causé beaucoup de dommages. Beaucoup de maisons se sont écroulées et cette population affectée passe mieux à la belle lettre. Et même la toiture du bureau du territoire a été emportée et tous les documents ont été mouillés. Je voulais interpeller le gouvernement national et le gouvernement provincial aussi d'apporter une aide adéquate à cette population-là qui souffre et que cette aide ne puisse pas prendre plus beaucoup de temps. C'est le moment d'agir parce que la population, elle est tentée d'attendre.
Cet appel est également relayé par l'organisation humanitaire Action pour la restauration de la paix et la justice qui plaide pour une intervention rapide et coordonnée afin de répondre aux besoins vitaux des populations affectées à Kabambare Centre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Au Mali, peine confirmée pour l'ex-premier ministre Moussa Mara. En détention depuis le 1er août dernier, Moussa Mara avait été condamné fin octobre à 2 ans de prison, dont un ferme, et à une amende de 500 000 francs CFA pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. En cause, un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara déclarait vouloir se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit. La cour d'appel a rendu son délibéré ce lundi matin et ne s'est pas montré moins sévère.
L'invité.
Le Congrès des États-Unis a renouvelé la semaine dernière la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique à Goa jusqu'au 31 décembre 2026. Ce dispositif permet aux pays africains, dont la République démocratique du Congo, d'exporter plusieurs produits vers le marché américain sans droit de douane. Pour en parler, nous recevons le professeur Ngoï Joël Nchiso, spécialiste du commerce extérieur. Il compte parmi les personnalités ayant œuvré au retour de la RDC dans la Goa. Il s'entretient avec Alain Rung.
Professeur Joël Ngoï Nchiso, bonjour. C'est quoi la Goa?
Merci beaucoup, cher journaliste Alain Erong. La Goa, qui est une loi des opportunités américaines pour le développement en Afrique, est simplement cette loi votée par le Congrès américain et publiée par le président des États-Unis afin de pouvoir intervenir dans le développement de l'Afrique à travers l'assistance apportée à différents secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, la formation en gestion des entreprises afin de permettre aux productions africaines d'être exportées aux États-Unis sans droit de douane. C'est vrai que nous sommes investis sur ce programme, mais il faut aujourd'hui remercier le chef de l'État et le ministre, son Excellence Julien Paluku, qui aujourd'hui gère d'une manière très efficace la Goa et a contribué à fournir toutes les informations permettant que ce programme soit renouvelé.
La RDC et les États-Unis ont signé des accords, notamment de coopération économique, le 4 décembre 2025 à Washington DC. Quelle pourrait être la valeur ajoutée de ces accords par rapport à la Goa?
Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lui-même initier les débuts de ces accords avec les États-Unis. Vous savez que depuis la conférence de Berlin, passant par la colonisation, l'indépendance du Congo et la période géopolitique de la guerre froide, le Congo, notre pays, a toujours été comme un élément sur le menu à table des grands décideurs à travers le monde international. Mais c'est pour la première fois que le Congo, à travers les chefs de l'État, s'assoit avec le dirigeant le plus puissant du monde pour signer un accord. Cet accord vient s'accoupler à la Goa pour vraiment produire des résultats très efficaces. L'accord, dans sa conception, parle de deals miniers qui sont des montants très très importants, qui demandent des interventions des grandes multinationales. Et si, à travers ces accords, on devrait aider le secteur privé congolais à participer aux deals, ils sont vraiment incapables compte tenu de leur état de finances. La Goa, alors, vient aider les petits producteurs, les petites entreprises à s'améliorer, à acquérir un capital qui leur permet d'être des sous-traitants
ou d'entrer dans le joint venture avec les grandes entreprises américaines. Voilà une nouvelle donne qui vient s'ajouter et sur laquelle notre pays doit capitaliser pour que la population tout entière se retrouve devant ces grands deals qui font appel à des grands financements que parfois notre secteur privé au Congo n'a pas.
Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux opérateurs économiques africains en général et particulièrement aux Congolais pour qu'ils puissent tirer tous les bénéfices possibles de l'AGOA?
Vous savez, comme expert de l'AGOA, un sujet qui m'a tenu à cœur depuis mes études de doctorat jusqu'à faire une thèse là-dessus, est que acceptons et avouons-le que les pays africains généralement dorment immédiatement après l'extension d'une période quelconque de l'AGOA et ne se réveille qu'en dernière minute lorsque ces programmes touchent à sa fin. Alors que pendant ce temps, on pouvait rentrer dans ces programmes qui prévoient l'assistance agricole, l'assistance dans l'éducation et la formation de l'entrepreneuriat, la construction des infrastructures et des crédits aux infrastructures qui jouent dans les exportations vers les autres pays, si premièrement les gouvernements de nos pays creusaient dans ces programmes pour tirer cet avantage-là, ça va beaucoup aider les secteurs privés à accroître sa production et à trouver des débouchés vers les États-Unis. Il faut dire ici que les ports en eau profonde jouent un grand rôle, les cargos vers les États-Unis jouent un grand rôle. Donc, si les gouvernements améliorent ces conditions et le secteur privé suit cette tendance dans sa production nationale, on peut bénéficier beaucoup de l'AGOA.
Professeur Ngoï-Joël Chisso, je vous remercie.
Notre invité était interrogé par Alain Irung-Mouchinge. Par ici s'achève ce journal, mis en onde par Alain Goy et Paul Badianyama. Coordination assurée par Élisée Chikota sous la supervision de Lévin Bouinga. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir écoutés et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.